Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Une petite lueur d'espoir et peut-être les premiers effets du confinement dans le berceau de l'épidémie en France. Mulhouse observe une très nette baisse du nombre de patients qui appellent le 15.
Ça fait du bien au moral, disent les soignants. Nous allons sur place, donc, dans quelques secondes.
Et dans le même temps, l'inquiétude grandit sur le risque de pénurie de certains médicaments essentiels en réanimation. L'éclairage ce soir du docteur Jimmy Mohamed avec nous.
Pas d'exception au confinement. Aucun déplacement ne sera toléré, même pour les vacances scolaires.
Nous avons actuellement un seul TGV aller-retour pour Paris, un seul TGV aller-retour pour Toulouse et nous avons trois TER qui sont tous systématiquement contrôlés et on affecte des contrôles au niveau des barrières de péage.
Le gouvernement donc qui annonce des contrôles renforcés. Dans ce journal aussi, le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran sur le grill des députés. Ça commence maintenant. Un salarié sur cinq est désormais au chômage partiel. On verra que ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. Et puis, bien plus léger, une chaîne humaine contre le coronavirus. Un appel à se donner la main. Vous allez me dire, c'est à l'opposé de toute consigne sanitaire. C'est n'importe quoi. C'est évidemment un poisson d'avril qui a circulé aujourd'hui. Et vous verrez que le web arrive rivalisé d'imagination.
Oui, il y en a encore un peu d'imagination.
La bourse, heureusement, la bourse de Paris décroche à nouveau ce soir de 4,3% à 4207 points.
Bonsoir Anissa, vous ne manquez jamais d'imagination, vous, surtout pour nous annoncer
des nuages.
Voilà.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Demain, nous aurons moins de soleil au nord et toujours très humide près des Pyrénées. Voilà le programme, je vous donne tous les détails à la fin du journal. Et puis surtout, je vous annonce que le week-end, lui, sera printanier. Donc il y a quand même une bonne note dans cette
météo. On valide, ça marche.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est peut-être la ville test, celle qui a le plus souffert jusqu'à présent, celle qui s'est confinée aussi en premier. Mulhouse, premier foyer majeur de l'épidémie en France. Eh bien, la ville semble percevoir une lueur d'espoir. Arthur Mbaché, vous êtes notre correspondant dans la région. L'hôpital a communiqué aujourd'hui et il y a de réels signes encourageants.
Écoutez, 1, 2 et 3. Les soignants ont compté ce matin, Sébastien, à 8h30, 3 patients seulement aux urgences de Mulhouse, alors que ces derniers temps, c'était plutôt 15 ou 20. Quelque chose se passe. On a peur d'être déçu, m'a dit un urgentiste. Alors, on ne parle pas de pic, le fameux pic. Peut-être que ce n'est qu'un faux rebond, dit-il, entre deux vagues, mais tout de même, hier, mardi, activité du centre 15, la plus faible depuis 30 jours. La tension baisse aux urgences depuis à peu près 4 jours. Les intubations aussi sont un peu moins nombreuses. Et ce chiffre, en tout depuis un mois, 400 patients tout de même sont rentrés chez eux, guéris de l'hôpital de Mulhouse. Ça donne le sourire, c'est bon pour le moral. Voilà deux phrases prononcées par le chef des urgences de Mulhouse cet après-midi. Inimaginable, il y a encore quelques jours. Lueur d'espoir, mais Mulhouse est toujours en pleine tempête parce qu'il y a les arrivées aux urgences et il y a la suite, le suivi en réanimation, notamment la réa. 56 lits est pleine, toujours et encore. L'hôpital de campagne sur le parking, quasi plein. Il y a, écoutez bien, 300 soignants de l'hôpital de Mulhouse en arrêt pour coronavirus ou suspicion. 20 soignants hospitalisés, 4 sont en réanimation. Le Haut-Rhin a besoin d'évacuer tous les jours 15 malades en réa, disent les médecins. Pour le moment, ça suit. Le rythme reste soutenu, notamment grâce à l'armée. Encore 6 patients évacués par avion aujourd'hui vers Toulouse. On le sait, Sébastien, la réanimation de patients Covid, ça peut durer 15-20 jours. Donc, pour que cette lueur d'espoir se transforme en vrai soulagement, il va falloir être patient encore.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est, cette région où l'on a déjà dépassé le stade des 1000 morts. Évidemment, ce n'est qu'un premier signe. On est loin encore d'atteindre le pic de l'épidémie en France. Un décès est aujourd'hui recensé dans le pays toutes les 3 minutes. L'urgence reste donc de désengorger les services de réanimation les plus saturés.
Et notamment en Île-de-France, 36 patients ont d'ailleurs été transférés aujourd'hui par 2 TGV médicalisés vers des hôpitaux de Bretagne, à Brest, Saint-Brieuc et Rennes précisément.
Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
On en parlait dès ce matin sur Europe 1, plusieurs hôpitaux alertent sur le risque d'une pénurie de certains médicaments dans les services de réanimation. Est-ce que c'est préoccupant ? De quoi on parle précisément ? Et pourquoi on n'arrive plus à produire suffisamment ces produits ?
Alors oui, c'est une des préoccupations des réanimateurs, c'est que nous arrivions à une pénurie de médicaments anesthésiants, ceux qui permettent d'endormir les malades et surtout d'entretenir ce coma artificiel qui est induit lorsque les malades sont intubés et ventilés. Pour rappel, un malade intubé et ventilé le sera pendant une moyenne de 2 semaines et donc il faut des produits en continu. Et ces produits peuvent peut-être arriver à nous manquer pour plusieurs raisons. C'est que, un, la consommation est exceptionnelle, les services de réanimation sous tension. Et puis le deuxième problème, c'est que ces médicaments-là, qui ne coûtent pas cher, on ne les produit pas et donc il faut les importer d'ailleurs, et à ce moment-là il y a une consommation mondiale qui explose et le risque c'est que la France ne soit pas forcément prioritaire. Alors désormais on rationne, on fait attention, chaque produit qui est ouvert est utilisé jusqu'à la dernière goutte et des mesures sont en train d'être prises pour que la France n'arrive pas à cette situation catastrophique de pénurie.
Eh oui, évidemment, on espère ça. Merci docteur Jimmy Mohamed, on reste vigilant sur ce sujet. Vous êtes avec nous, vous, chaque soir pour répondre à toutes les questions sur le hashtag Radio Ouverte et on vous retrouve avec Mélanie Gomez sans rendez-vous. C'est tous les jours à 15h sur Europe 1. Mon invitée à 18h20, elle est de l'ordre des médecins, c'est elle qui de l'ordre des pharmaciens, pardonnez-moi. C'est elle qui dirige ses 22 000 officines et qui va nous livrer le point sur depuis ces 15 jours de confinement, qu'en est-il? Combien ont dû fermer les pharmaciens, cette croix verte qui reste allumée pour vous, pour nous, chaque jour. Il y a des agressions, ils en sont victimes. Elle va nous raconter le quotidien très difficile aussi, c'est professionnel.
Et on parlait hier de la situation très compliquée dans les EHPAD, dans celui de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Le bilan s'est encore alourdi avec 4 nouveaux décès, 19 morts au total. Dans le Doubs, un établissement a vu mourir un quart de ses résidents à cause de ce virus. 25 décès au total et d'autres cas sont encore apparus. 9 pensionnaires d'un EHPAD dans l'Isère, 7 dans un autre dans le Puy-de-Dôme. Le gouvernement qui a promis de recenser les décès dans ses résidences pourrait communiquer un bilan global ce soir. Et puis on l'a appris aujourd'hui, les laboratoires de la police technique et scientifique et ceux de la gendarmerie aussi vont venir en aide aux hôpitaux pour procéder aux analyses des tests de dépistage du Covid-19.
Et on ne bouge pas pendant le confinement, évidemment. La consigne est passée pour ceux qui pourraient encore en douter.
Oui, ou qui espéraient peut-être profiter des vacances scolaires qui s'ouvrent vendredi soir pour la zone C. Eh bien, le gouvernement l'a martelé aujourd'hui, pas question d'assouplir les règles, aucune exception. On ne part pas en vacances, écoutez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
On ne part pas en vacances pendant la période de confinement. Pendant la période de confinement, on doit rester confiné. Et donc, je demande vraiment à celles et ceux qui ont envisagé de se déplacer pour les vacances de se rendre compte que, à la fois, ils s'exposent et ils exposent leurs proches. Et donc, le message est clair et je vous l'indique, j'ai demandé hier soir au préfet des zones touristiques de vérifier le niveau de location et d'occupation, notamment des Airbnb ou autres offres locatives, et tout abus sera sanctionné.
Christophe Castaner, ce matin c'était sur LCI. Message bien reçu chez vous, Stéphane Place, bonsoir.
Bonsoir.
Notre correspondant en Nouvelle-Aquitaine, les autorités promettent là-bas d'être intraitables.
Oui, avec d'abord des contrôles systématiques des trains Gare Saint-Jean à Bordeaux, c'est facile, le trafic est extrêmement réduit. Et puis avec des vérifications sur les axes routiers. Fabienne Bucio, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons actuellement un seul TGV aller-retour pour Paris, un seul TGV aller-retour pour Toulouse et nous avons 3 TER qui fonctionnent et ils sont tous systématiquement contrôlés. C'est très clair et on affecte là justement au niveau des routes et des autoroutes des contrôles au niveau des barrières de péage.
Policiers et gendarmes sur les routes qui mènent notamment au bassin d'Arcachon et à la presqu'île de l'Esch-Cap-Ferré, dont le maire, Philippe de Gonneville, incite les propriétaires à ne pas louer leurs biens pendant ces vacances.
Nous avons, par l'intermédiaire de l'Office de tourisme de l'Esch-Cap-Ferré, envoyé un message aux professionnels et aux non-professionnels qui louent leurs biens sur la commune de l'Esch-Cap-Ferré, de leur dire pendant les vacances de Pâques, ne louez pas votre bien. Certains ont envie de passer une partie du confinement chez nous, mais d'une part, nous ne sommes pas en mesure de les accueillir tant au niveau des problématiques de santé au centre médico-chirurgical d'Arès ou au niveau des médecins de ville. Et puis, nous craignons également, s'il y a une arrivée massive, de manquer un petit peu de denrées alimentaires pour tout le monde.
Et sur la seule route qui mène à la presqu'île, seront mis en place des barrages filtrants, explique le maire, pour s'assurer du respect des règles de confinement.
Stéphane Place en ligne de Bordeaux pour Europe 1. Et aujourd'hui, un habitant de Calais âgé de 20 ans a été condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir violé le confinement à plusieurs reprises.
Il est 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On va y revenir avec les grandes voix et Mickaël Darmon, notamment à 18h30, le gouvernement sur le grill pour défendre sa gestion de la crise. Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran font face aux députés ce soir.
Et première audition devant la mission d'information parlementaire qui désormais suivra et examinera les décisions prises pour endiguer cette épidémie. Adrien Beck, vous suivez ces échanges qui viennent tout juste de commencer par visioconférence pour cause de confinement.
Oui, dans une salle de l'Assemblée nationale presque vide, Édouard Philippe à côté, ou plutôt à quelques mètres d'Olivier Véran, face au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui préside cette mission. Le Premier ministre qui vient d'entamer il y a quelques secondes un propos liminaire, mais les députés qui vont poser des questions, eux, sont chez eux ou dans leur bureau par visioconférence. C'est sans doute la première fois qu'une audition du Parlement se déroule quasi intégralement en visioconférence. Et ce ne sera pas la dernière, puisque cette mission de contrôle se réunira chaque semaine. Ce soir, donc, le Premier ministre et son ministre de la Santé vont devoir commencer à rendre des comptes. On liste 26 questions, 12 de la majorité, 14 de l'opposition. En pleine crise, les sujets brûlants ne manquent pas. Quelles ont été les failles? Comment expliquer le manque de masques, de gel, de matériel médical? Bref, a-t-on suffisamment anticipé? Pour l'instant, ce n'est qu'une mission d'information, présidée de plus par un très proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. Mais après le confinement, elle devrait se transformer en commission d'enquête. C'est une demande de l'opposition, notamment de droite, avec des prérogatives plus larges et un risque politique pour l'exécutif plus important.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. On suit évidemment cette audition tout au long de ce grand journal du soir.
Et l'économie à l'arrêt, on saisit un peu plus chaque jour la situation avec ces chiffres frappants. Un salarié du privé sur 5 est désormais au chômage partiel.
Et en clair, c'est l'État qui prend le relais et paye 84% du salaire net. Olivier Samain, ce sont 3 600 000 salariés qui sont concernés et ça va coûter finalement beaucoup plus cher que prévu.
3 600 000 salariés, c'est 1,5 million de plus qu'à la veille du week-end. Il y a donc une très forte accélération des demandes présentées par les entreprises. Le nombre d'entreprises concernées a d'ailleurs bondi lui aussi. Le ministère du Travail en compte aujourd'hui 337 000, soit 140 000 de plus en 4 jours. Ce qui ne fait plus de doute désormais, c'est que le coût du dispositif va allègrement dépasser les 8,5 milliards d'euros prévus initialement par le gouvernement. La dépense potentielle sur une durée de 3 mois dépasse maintenant 11 milliards. Qu'importe, semble dire l'exécutif. Les enjeux budgétaires passent au second plan. La priorité, c'est de maintenir dans l'emploi le plus possible de salariés confrontés depuis 3 semaines à un effondrement de leur volume de travail et permettre ainsi aux entreprises de compter sur la totalité de leurs équipes au moment où l'activité redémarrera. Un pari que l'Allemagne avait réussi à la sortie de la crise de 2008. La France s'en inspire aujourd'hui. Elle ne veut surtout pas tomber dans l'écueil américain. Aux États-Unis, où il n'existe pas de chômage partiel, a dit ce matin Muriel Pénicaud, en une semaine, il y a eu 3 millions de licenciements.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1, 200 000 petites entreprises ont aussi sollicité le fonds de solidarité destiné aux structures de moins de 10 salariés qui ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, la prime défiscalisée pour les salariés qui continuent de travailler, parfois de façon très exposée. Cette prime pourra être versée jusqu'au 31 août, date étendue aujourd'hui, et le plafond a été porté à 2 000 euros.
On y revient avec Emmanuel Duteil aussi dans les grandes voies et on file aux États-Unis où il n'existe ni système de santé universel ni chômage partiel. On parle désormais de 3 millions de licenciements en seulement une semaine. Donald Trump prédit des semaines très douloureuses. On sera à New York tout à l'heure avec notre correspondant Xavier Yvon qui se joint aussi aux grandes voies ce soir pour nous parler de la situation sur place et cela s'impose.
L'humanité est confrontée à la pire crise depuis 1945, estime l'ONU, qui pointe aussi le risque d'une crise humanitaire, risque de pénurie alimentaire et de malnutrition dans les pays les plus vulnérables. 8 millions de personnes notamment menacées de pauvreté dans le monde arabe. En Europe, l'Italie et l'Espagne continuent de recenser les morts par centaines chaque jour, plus de 800 en 24 heures dans chacun de ces pays.
Et puis le monde du football, endeuillé, Didier Deschamps salue par exemple la stature et le charisme de Pape Diouf emporté par le coronavirus au Sénégal. Il fut l'un des présidents les plus populaires de l'OM. Ce soir, les supporters marseillais vont lui rendre hommage à 20h. On en parlera dans votre journal à 19h.
Pas de Wimbledon cette année. La décision a été actée aujourd'hui. Le mythique tournoi de tennis sur gazon est annulé, c'est pourtant l'un des piliers du Grand Chelem. Il devait débuter fin juin en Grande-Bretagne. Et au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, heureusement, il y a de quoi respirer et se détendre pendant ce confinement. Le web rivalise d'imagination. Nous sommes le 1er avril, ça ne vous a pas échappé. L'occasion était trop belle. Magnifique série de poissons d'avril aujourd'hui, Romain Oquet, avec des canulars, évidemment, tous plus ou moins liés à l'épidémie.
Oui, et en pleine période de gestes barrières et de distanciation sociale, il y a 7 appels sur Facebook pour créer une immense chaîne humaine autour de la Terre, main dans la main, soudés, serrés les uns contre les autres pour endiguer l'épidémie. Autre astuce, si jamais vous arrivez encore à maintenir un semblant de vie sociale, déjà, bravo, vous pourrez alors suivre ce conseil d'universitaires français et suisses, validé selon eux par l'Académie française. Ces spécialistes préconisent d'utiliser le vouvoiement plutôt que le tutoiement, tout simplement parce que certains sons, comme le tu, envoient plus de postillons que d'autres. Oui, tout est dans le détail. En revanche, une mauvaise nouvelle, cet été, le Tour de France sera délocalisé en Corée du Sud, là où il n'y a pas de mesures de confinement. Le journal Le Point l'a révélé aujourd'hui. Alors tant pis pour les casquettes à pois et les porte-clés de la caravane. Bon, après, il faut l'admettre, ce 1er avril n'est quand même pas comme les autres. Peu de blagues sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça ne fait vraiment pas rire tout le monde. À Taïwan ou en Thaïlande, par exemple, des pays qui craignent que ces poissons d'avril soient pris pour de vraies informations, eh bien là-bas, la moindre plaisanterie peut vous envoyer en prison ou vous coûter plusieurs milliers d'euros d'amende.
Voilà, on rigole pas partout. Hein,
non, pas partout. Hein. Vous aviez rien prévu là, Sébastien.
Donc on se vouvoie, Nathalie, pour éviter de se postillonner dessus, s'il vous plaît.
Voilà, on commence comme ça. Je sais pas où on s'arrête. Merci à vous, Sébastien Krebs. On vous dit quand même à tout à l'heure. Hein.